Alors, je voulais tout d'abord vous remercier de l'invitation qui m'honore, vous dire qu'il fait toujours plaisir de voir des gens jeunes et moins jeunes se mobiliser, s'engager ou tout simplement être encore un peu curieux de nos jours. Je suis ici cependant en tant que politologue, en tant qu'académique. Qui a vécu, qui est un spécialiste donc proclamé par d'autres politistes du monde arabe et du Moyen-Orient, du monde arabe et musulman. Et j'ai à ce titre vécu plusieurs années, comme le disait Kautar, en Palestine, où j'ai vécu 3 ans, l'écroulement du processus d'Oslo de 2000 à 2003. J'y retourne assez régulièrement, j'y suis retourné assez régulièrement. J'ai vécu aussi quelques années en Égypte et en Syrie dans le cadre de mes recherches et de ma thèse. Et je me suis heurté dans mes travaux, et je vais arriver tout de suite au thème un peu de mon intervention aujourd'hui, la question de l'apartheid, qui recouvre plus globalement la question de l'analogie, de la comparaison avec l'histoire sud-africaine, avec le cas sud-africain. Qui comporte évidemment quelques attraits, mais aussi quelques pièges auxquels je me suis heurté. Et donc je voulais vous faire part de ces quelques réflexions, de ces quelques résultats de recherche auxquels j'étais arrivé, qui peuvent, d'un point de vue militant, présenter autant d'avantages que d'inconvénients. Mais il est peut-être important que l'on soit conscient de la portée, des limites de cette analogie avec l'Afrique du Sud. Il importe pour ça de refaire un peu l'historique des usages comparatifs de l'analogie sud-africaine pour en apprécier la portée. Alors, on se heurte avec la Palestine, on se heurte pour le cas palestinien à un problème de terminologie en sens politique. On ne sait plus comment qualifier cet espace. Hein, c'est un peu un espace politique en mal de mots. Il n'y a pas d'État. La discussion sur l'idée d'un apartheid supporterait une précision chronologique qui fait souvent défaut. On parle de régime coercitif, de dictature, d'occupation, de colonisation. Mais les scientifiques sont un peu, et j'y reviendrai en conclusion, prisonniers de la catégorie étatique pour comprendre, analyser ce qui se passe en Palestine. Alors, je vais arriver tout de suite à un premier volet de ma présentation, qui est à quelle fin a tout d'abord été utilisée l'analogie sud-africaine, hein, de l'apartheid. Tout d'abord, c'est une comparaison qui est avant tout politique, hein, qui est mise en œuvre, qui est mise en avant par des praticiens de la politique, par des hommes politiques, et les premiers à mettre en œuvre cette comparaison le font d'une manière positive, puisqu'il s'agit d'hommes politiques sud-africains, essentiellement en 1961. Le Premier ministre africaineur Hendrik Verwoerd expliquait, donc c'est une citation, « Les Juifs prirent Israël aux Arabes après que ceux-ci y vécurent pendant un millénaire. Israël, comme l'Afrique du Sud, est un état d'apartheid. » Donc ça, c'est 1961. En 1976, on trouve dans l'annuaire officiel sud-africain une autre citation intéressante pour notre propos. Israël et l'Afrique du Sud partagent un seul problème fondamental. Ils sont tous deux situés dans un environnement hostile, habité par des gens foncés, hein, dark people. Donc voilà, donc une première série d'analogies, de comparaisons historiques qui sont vues positivement et politiquement par des acteurs politiques. On a un peu plus tard, toujours un peu d'un point de vue politique, mais plus tard, en 2007, l'ancien ambassadeur du temps de l'Afrique du Sud, de l'apartheid, l'ancien ambassadeur d'Israël en Afrique du Sud, Aaron Liel, qui se confie à un journaliste en disant, alors je vais arriver à... Je vais y arriver. Ah non, alors j'ai pas la citation. si je l'ai, par rapport au degré de souffrance infligée, nous concourons dans la même catégorie. Bien sûr, l'apartheid avait une philosophie bien différente de ce que nous faisons, nous, Israéliens, pour des raisons sécuritaires, essentiellement, mais du point de vue du résultat, nous sommes dans la même catégorie. Donc ça, c'est l'ancien ambassadeur d'Israël en Afrique du Sud du temps de l'apartheid. Et enfin, il n'est pas besoin d'aller bien loin dans l'histoire. Il y a quelques semaines, Ehud Barak, l'actuel ministre de la Défense israélien, pressait les gouvernants, ses collègues gouvernants israéliens, d'arriver à des accords de paix très vite avec les Palestiniens pour se sortir d'une situation d'apartheid. Donc vous voyez que l'analogie sud-africaine n'est pas un monopole palestinien ou militant pro-palestinien. D'infamante, donc, de positif, cette analogie sud-africaine est devenue peu à peu infamante, hein, à mesure que le régime sud-africain était combattu par la communauté internationale, à la mesure de son échec progressif. Cette analogie est devenue infamante. Et l'on arrive aujourd'hui donc à un monopole militant de cette analogie, un monopole donc pris en main par les défenseurs des Palestiniens et de la Palestine. Les exemples sont bien plus nombreux et récents. Cette conférence et ses titres et ce bandeau en sont des exemples. On peut quand même signaler une date importante qui est celle de 2001, la conférence de Durban organisée par les Nations Unies, une conférence contre le racisme, où les Palestiniens et les militants pro-palestiniens ont réellement investi officiellement, institutionnellement, cette analogie infamante, devenue infamante, de l'apartheid pour défendre le cas des Palestiniens des territoires et le cas des Palestiniens en général. Des territoires occupés et le cas aussi des Palestiniens de l'actuel État d'Israël. Alors, cette analogie pose quand même quelques problèmes. Un premier problème qui est celle du gommage historique, hein, de l'homogénéisation d'une longue période de l'histoire sud-africaine qui s'appuie sur des siècles de ségrégation envers les non-blancs, puisque vous savez que les Sud-Africains avaient toute une série de lois qui différenciaient les statuts des gens qui n'étaient pas blancs, en différents, les blancs, les noirs, les métis, etc., etc. Donc il y avait plusieurs types. Et surtout, une évolution politique importante de l'Afrique du Sud au cours du XXe siècle, que cette analogie actuelle de l'apartheid sud-africain tend un peu à gommer. Et je vous montrerai par la suite que des nuances historiques sont importantes si l'on veut bien utiliser cette analogie. Le deuxième problème, et qui est un problème important qui peut-être vous concerne et concerne tous les défenseurs du cas palestinien, de la cause palestinienne, c'est celui du cadre stratégique dans lequel se positionne l'analogie avec l'apartheid. Puisque, très rapidement dit, j'espère que cela va être clairement compris, l'analogie sud-africaine se positionne dans un cadre mono-étatique, dans le cadre d'un seul État, au sein duquel une minorité victime de ségrégation entend faire valoir ses droits d'accès dans ce même appareil d'État, à l'intérieur de ce même appareil d'État, dans ce même espace sud-africain. Pour le cas palestinien, on n'a pas tout à fait la même chose, puisque la revendication historique des Palestiniens s'appuie sur une revendication, sur un fait national, sur un mouvement national, où la revendication d'un État autonome, d'un État différent de l'État d'Israël, tout d'abord qu'il recouvrirait, hein, et puis ensuite qu'il jouxterait. Donc cette revendication n'a pas du tout le même cadre stratégique que celle que mettaient en avant les militants noirs et les militants anti-apartheid en Afrique du Sud. Alors je reviendrai aussi à ce problème, hein, du cadre stratégique qui est inversé et qui pose problème. Alors, j'arrive maintenant assez rapidement au statut de la comparaison scientifique, avec en transition, si vous voulez, une petite, quand même une petite citation assez archétypale d'un historien israélien qui dit, pour récuser l'analogie actuelle avec l'Afrique du Sud, qui dit, donc là, et je parle de Gerald Steinberg, qui dit en 2007, j'ai noté cette phrase parce qu'elle est vraiment archétypale, la campagne pro-palestinienne et antisémite destinée à diaboliser Israël se concentre sur l'analogie totalement fausse et abusive avec l'Afrique du Sud. Utiliser le mot apartheid pour qualifier les réponses légitimes d'Israël à la terreur et à la menace d'annihilation est l'accusation la plus immorale contre le droit du peuple juif à l'autodétermination. Vous voyez là, si vous voulez, en l'espace de quelques décennies, le passage de l'analogie sud-africaine d'un statut positif, de comparaison positive par des acteurs politiques israéliens et sud-africains, au statut de comparaison infamante. Alors j'arrive maintenant à un deuxième ensemble comparatif qui est la comparaison scientifique, qui a été tentée relativement tôt, dès les années 70 également, par des chercheurs palestiniens, des historiens. Je cite Ibrahim Abouloured, qui était un historien palestinien de la diaspora et qui est revenu s'établir avant d'y mourir à Ramallah en 2002. Il est mort en 2002. Non, il est mort en 2000. Alors, Abouloured et ses successeurs palestiniens vont tenter, dans les travaux à partir des années 70, de mettre en œuvre, d'un point de vue scientifique, une comparaison avec l'Afrique du Sud, avec une recherche timide au départ, des convergences, des analogies avec le régime sud-africain et ce que fait Israël aux Palestiniens. Le problème ici se pose du statut de la comparaison en sciences sociales. Et là, il faut faire une distinction entre le sens commun, on dit souvent c'est pas comparable, ou alors c'est comparable, au sens d'identification absolue, au sens de dire c'est exactement la même chose. Alors, c'est pas du tout le même statut qu'à la comparaison en sciences sociales, puisque la comparaison en sciences sociales ne recherche pas d'identification absolue, mais recherche recherche un ensemble de différences et un ensemble de convergences entre deux situations historiques différentes. Oui, une recherche de différences et une recherche de ressemblance. Hein. Donc c'est, voyez bien que là, que la comparaison n'a pas le même statut dans le sens commun et militant et dans le sens scientifique. Alors, on arrive à tout un ensemble aussi de comparaisons qui ont été faites un peu en même temps et puis plus tard, que les Palestiniens par de très nombreux chercheurs qui ont travaillé sur l'Afrique du Sud et Israël, sur l'Afrique du Sud, Israël et l'Irlande du Nord. Donc que faisaient les Britanniques, que fait le gouvernement britannique en Irlande du Nord avec les catholiques d'Irlande du Nord, comment se gère l'occupation et les conflits ethniques dans un espace conquis. Alors ça, c'est tout un ensemble, toute une littérature, alors pour le coup, qui est très scientifique, qui est très argumentée, mais qui représente l'inconvénient de ne traiter le problème que du point de vue du dominant, de l'occupant. Hein, c'est comment Israël ou les Britanniques ou l'Afrique du Sud gèrent sa conquête, gèrent sa domination, comment sortir du conflit et de cette position de domination d'une manière honorable ou pacifique. Comment l'influence de la religion catholique en Irlande du Nord, juive en Israël, modèle la manière dont la puissance occupante gère ses minorités. Alors, vous voyez bien, encore une fois, les limites de ces comparaisons scientifiques. J'aimerais dire qu'il est possible, cependant, de dresser une comparaison réglée par recherche des différences et des ressemblances entre deux situations historiques sur une base commune qui est celle d'un conflit ethno-territorial, hein, entre deux ethnies pour un même territoire. Ethnie entendue au sens large de ethno-linguistique ou alors ethno-religieux. Alors on a des cas intéressants sur cette base, des cas intéressants de comparaison, de sortie de conflit qui s'est résolu par l'inclusion, dans le cas sud-africain, par victoire de l'ANC, où donc finalement la majorité noire a finalement réussi à inclure la minorité blanche qui dominait jusqu'alors, et inversement, où la minorité blanche a inclus la majorité noire dans un même ensemble géopolitique, dans un même ensemble étatique. On a, sur la base d'un conflit ethno-territorial, un résultat inverse pour le cas de l'Algérie française, où en 1962, ce conflit ethno-territorial s'est fini, s'est résolu par exclusion des colons français de l'Algérie. Donc ils sont, ce million de colons français et européens ont été exclus de l'Algérie et sont partis d'Algérie. Alors c'est important, si vous voulez, cette dichotomie entre inclusion et exclusion, puisque c'est précisément une conjonction des deux, inclusion et exclusion, qui caractérise la situation actuelle des Palestiniens dans les territoires occupés Cisjordanie-Gaza et, dans une moindre mesure, mais aussi également en Israël, où on voit la conjonction d'une séparation démographique et physique d'une inclusion territoriale et démographique, dans une moindre mesure, pour les Palestiniens d'Israël. Alors, l'intérêt de l'analogie que j'ai trouvée dans mes recherches concerne, d'un point de vue un peu plus historique, l'évolution des régimes successifs d'apartheid sud-africain, et c'est là que ça devient vraiment intéressant pour nous. On part en Afrique du Sud d'une législation qui s'appelait Color Bar, des 18e et 19e siècles, qui ségrégait déjà, qui produisait une taxinomie ethnique, ethno-démographique, et qui distinguait donc les Blancs de toute une autre catégorie d'habitants sud-africains. On arrive ensuite en 1951 au Bantu Authorities Act, qui produit un nouvel ensemble législatif de ségrégation envers les gens qui n'étaient pas blancs, pour enfin arriver à un projet qui nous importe, et vous allez comprendre l'intérêt de le comprendre. C'est le projet par le régime sud-africain au cours des années 70. Donc le nom de cette loi, c'est le Black Homeland Citizenship Act, la création d'une dizaine de Bantoustans en Afrique du Sud, où le régime blanc sud-africain s'emploie à concentrer le maximum de noirs sur le minimum de terres. Donc ça, c'est maximum de territoire pour un minimum de non-blancs, de non-juifs. Là, vous comprenez l'analogie. Elle est à peu près similaire, puisqu'elle est au cœur aussi du projet sioniste, de maximiser les territoires en minimisant la présence non-juive sur ce territoire. C'est la seule manière de formuler cette stratégie d'une manière satisfaisante sur le plan anthropologique, puisque vous savez que l'opposition juif-arabe est fausse anthropologiquement. On peut être arabe et juif, et on peut être arabe et chrétien. Donc ce Black Homeland Citizenship Act prévoit la création d'une dizaine de Bantoustans sud-africains sur toute l'Afrique du Sud, qui réussit à la fin des années 70 à concentrer 55% de la population noire sud-africaine dans 13% du territoire sud-africain. Alors, par comparaison, Oslo, le processus d'Oslo prévoyait dans une petite dizaine de poches palestiniennes la promise à une autonomie, self-government, était promise. Donc ces petites dizaines de poches palestiniennes concentraient 90% de la population palestinienne des territoires sur environ 20%, moins de 20% des territoires occupés. Donc vous voyez encore une fois l'intérêt de cette analogie. Ça va un peu plus loin dans le cas sud-africain avec un projet de dénaturalisation, de retrait de la nationalité sud-africaine aux Noirs sud-africains que l'on n'a pas pu, envoyer dans ces nouveaux Mantoustans. Et on arrive donc à, si vous voulez, vous allez encore comprendre l'intérêt de l'analogie. Je vais citer Connie Mulder qui, en 78, ministre africaineur des relations plurielles et du développement, c'est très politiquement correct comme titre, déclarait donc aux députés sud-africains, si notre politique vis-à-vis des populations noires parvient à sa conclusion naturelle, il n'y aura plus un seul noir avec la citoyenneté sud-africaine. Chaque homme noir en Afrique du Sud sera déplacé et réinséré dans un nouvel État indépendant, de manière respectueuse, et il n'y aura ainsi plus d'obligation pour ce Parlement de prendre politiquement en compte ces personnes. Alors donc là, on a, si vous voulez, par analogie, le plan Allon de la fin des années 60, les prescriptions du géographe israélien Sofner, qui mettait en avant le péril démographique que constituait l'inclusion de la population des territoires palestiniens occupés en 1967. À la différence que, et l'on arrive encore à un degré comparatif qui nous intéresse, dans le cas israélien, l'alternative a été posée par les ethnicistes de la gestion de l'occupation israélienne, qui étaient souvent des travaillistes israéliens. Le Likoud, les nationalistes israéliens, mettaient en avant pour résoudre cette question démographique la possibilité d'une expulsion, d'une nouvelle expulsion des Palestiniens, appelée pudiquement en langage, en langue hébreu, le transfert. Mais ils n'ont pas encore réussi à mettre en œuvre massivement ce transfert, donc cette expulsion. Et ils avaient en face d'eux donc les travaillistes israéliens qui disaient il faut gérer ce péril démographique en l'endiguant, en maîtrisant les frontières, en annexant toutes les frontières, la vallée du Jourdain, en y plaçant des colonies qui rendraient ces frontières stables, qui rendraient ces frontières inaliénables, en plaçant des populations israéliennes juives le long de ces frontières, construire un corridor démographique annexé entre Jérusalem et la Mer Morte, qui couperait la Cisjordanie en deux, et enfin éventuellement conférer à ces poches palestiniennes un statut non menaçant pour Israël, surtout pas un État, peut-être un État. Le statut importait peu, ce qui comptait pour ces travaillistes israéliens, c'était d'endiguer, de ne pas prendre en compte démographiquement et démocratiquement une population non juive dans le cadre politique plus large israélien. Alors, à la différence que l'alternative qui se posait à l'État israélien, soit on décolonise, soit on annexe, cette alternative, ces deux pans seront mis en œuvre conjointement. C'est-à-dire que à la fois une politique de colonisation intense aura lieu. Aujourd'hui, y compris Jérusalem-Est, on a près de 500 000 colons, un demi-million de colons dans les territoires palestiniens, donc en Cisjordanie. Un archipel de poches palestiniennes, une petite dizaine de poches palestiniennes séparées par des colonies, des routes coloniales. Donc ce refus de l'alternative amène à un double processus, celui d'une annexion continue et celui d'une séparation continue, qui se traduit par la multiplication de poches hermétiques de populations palestiniennes de plus en plus petites, de plus en plus émiettées et isolées les unes des autres par rapport aux frontières internationales, par rapport à leur territoire et par rapport à Israël. Alors, trois différences quand même stratégiques importent pour conclure sur cette analogie. Trois différences stratégiques avec le cas sud-africain. D'une part, on peut citer le refus par l'ANC de Nelson Mandela des Bantoustans sud-africains. Vous savez que le régime sud-africain prévoyait d'aller à l'ONU pour demander que ces 10 Bantoustans soient reconnus comme États indépendants et souverains pour continuer et conclure ce long processus de mise à distance des Noirs sud-africains. Alors, première différence, Nelson Mandela refuse. Les Noirs sud-africains refusent, l'ANC refuse. Différence, pourquoi ? Parce que les Palestiniens, tout au contraire, les Palestiniens veulent leur État indépendant, veulent des territoires qui soient indépendants. Deuxième différence stratégique, je le citais un peu, l'appui de la communauté internationale aux Noirs sud-africains, à l'ANC, le refus de la communauté internationale, le refus des Nations Unies de donner leur indépendance à ces Bantoustans, de reconnaître comme État ces Bantoustans sud-africains, y voyant là un artifice raciste, alors même que la communauté internationale, depuis 1947, est dans un consensus extraordinaire pour, dans le cas palestinien, pousser à la création d'une entité politique palestine indépendante, d'un État. Dernière comparaison, dernière différence stratégique dans cette comparaison, la troisième, la question des seuils d'intégration, donc sur le plan concret, sur le plan pratique. Vous savez que dès les années 80, avec ce Sofner, ce géographe israélien, est posée la question du seuil, à partir duquel la colonisation des territoires palestiniens serait vue comme irréversible. Alors, ce géographe a mis en avant le calcul de seuils irréversibles au-delà desquels la décolonisation ne serait plus possible. Il a mis en avant cette question du seuil dans la volonté de refuser la colonisation, de lutter contre la colonisation, comme beaucoup de travaillistes à l'époque, en disant, voilà, il ne faut surtout pas coloniser, puisque le parti colonial va nous mettre dedans, va nous empêcher d'avoir une majorité juive, puisque cela va conduire à intégrer une forte population non-juive dans notre communauté politique. Alors, cette question des seuils, elle est importante, puisqu'on la retrouve dans l'analogie sud-africaine, on retrouve, dans l'analogie sud-africaine, un retournement de l'argumentaire des seuils. C'est-à-dire que très tôt, les colons, le parti des colons, qui était contre les travaux de ce géographe, ont dit, très bien. Alors voyez, là, quand vous avez fait vos travaux il y a 10 ans, on n'y était pas encore, mais aujourd'hui, le seuil que vous avez calculé est dépassé, donc on ne peut plus revenir en arrière, donc il faut continuer de coloniser, on ne peut plus revenir en arrière, on ne peut plus enlever nos colonies. Donc vous voyez l'inversion de l'usage de l'argumentaire. Et pareil, côté palestinien, les défenseurs des Palestiniens et les Palestiniens qui ont accueilli très favorablement ces travaux d'Ariel Sofner qui montraient le fait qu'il était impensable ou critiquable de vouloir coloniser les territoires occupés, se sont vus emprisonnés par cette question des seuils et sont passés à la critique de ces seuils, en accusant tous ceux qui parlaient de seuils critiques, de calculs de seuils, de faire le jeu d'Israël, puisque, in fine, ultimement, cette question des seuils arrivait à légitimer la pérennisation de la colonisation israélienne des territoires occupés en 67. Alors, on arrive aujourd'hui à cette question d'un paradoxe extraordinaire qui est la revendication croissante, consensuelle sur le plan international pour un État palestinien et la perte parallèle, absolue, d'une maîtrise de ce futur État, c'est-à-dire la croissance, la mainmise croissante de l'État d'Israël sur l'ensemble des territoires occupés palestiniens, sur le plan sécuritaire, sur le plan de l'administration civile, sur le plan des registres d'état civil, sur le plan... chaque fois que je retourne dans les territoires palestiniens, la dernière fois que j'y étais, l'employé palestinien de l'hôtel de Ramallah où j'étais vérifiait, par exemple, si j'avais bien mon visa israélien d'entrée sur le territoire. C'est-à-dire que l'employé palestinien appliquait la législation israélienne en vigueur en Israël, il l'appliquait à Ramallah dans un territoire réputé promis à un État palestinien et dans un territoire réputé occupé. Donc, vous voyez ce paradoxe historique extraordinaire d'une mainmise croissante, d'un contrôle croissant d'Israël sur un territoire promis paradoxalement à l'indépendance étatique. Alors, la question qui se pose évidemment d'un point de vue militant, c'est qu'est-ce que ça veut dire du coup quand je manifeste contre un mur ? Moi, j'ai pas la réponse. Mais quels sont, cela invite, si vous voulez, à réfléchir aux présupposés politiques et stratégiques de la signification d'une critique du mur et d'une critique de l'apartheid. Et j'arrive enfin, pour conclure, excusez-moi d'avoir un peu débordé, à un bel article de Charles Tilly en 1992, l'historien, qui titrait « Prisonnier de l'État hein, ». Et lorsqu'il parlait de personnes prisonniers de l'État, il parlait peut-être de cas de dictature, hein, d'États dictatoriaux qui oppriment leur population, mais il parlait bien plus sûrement dans son article de politistes, d'analystes, prisonniers de la catégorie étatique. Et ma dernière partie de conclusion sera un rappel au fait que... la signification d'un État pour les Palestiniens n'est pas tout à fait la même que pour les sionistes. Pour les sionistes, un État pour les Juifs est une fin en soi. Pour les Palestiniens, un État n'est pas une fin en soi, c'est un moyen d'accéder à l'autodétermination, c'est un moyen d'accéder à la liberté. Je ne suis pas sûr que l'État qui se dessine, dont la discussion sur la viabilité occulte l'enjeu stratégique que j'essaie de vous montrer, je ne suis pas sûr que l'État palestinien qui se dessine constitue un instrument de libération pour les Palestiniens. Et je vous remercie.